Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Immo. Comment s'est comporté le marché de l'immobilier en Île-de-France au troisième trimestre? Réponse dans cette nouvelle édition du Club Notarial de l'Immobilier. Bonjour Élodie Frémont.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes notaire à Paris dans le 6e arrondissement et présidente également de la commission statistique immobilière. Alors sur le deuxième trimestre, vous aviez constaté un ralentissement de la baisse des volumes de vente par rapport aux années précédentes. Un marché des maisons particulièrement impacté, avec seulement 30 000 ventes sur 12 mois, la baisse des prix limité à 7-8%, taux d'intérêt également en baisse. Vos perspectives étaient optimistes pour le mois d'octobre, stabilisation probable des prix. Nous sommes le 28 novembre. Est-ce que le bilan sur le troisième trimestre a évolué? Et si oui, de façon positive en Île-de-France?
Alors, ça continue de baisser, c'est pas une surprise, et ça continue de ralentir de baisser, c'est toujours pas une surprise. Donc on a 7 trimestres consécutifs de baisse, et ça va moins vite dans la baisse, comme vous l'avez dit. Alors en volume de transactions, ça va moins vite, que ce soit Grande Couronne, Petite Couronne, Paris et Région Île-de-France dans son ensemble, on est environ à moins 11% de transactions en un an. Et sur les prix, une stabilisation des prix à moins 5,3%, moins 5,2%, moins 5,5%. Suivant les secteurs de marché. Voilà, retenons moins 11% de volume de transactions et moins 5% de façon plus globale sur les prix.
Est-ce qu'il y a des différences notables selon les biens anciens, que ce soit les appartements ou les maisons ?
Alors, on note que ce ralentissement est encore plus marqué pour les maisons que pour les appartements. Pour peut-être deux raisons. La première d'entre elles, c'est qu'on est bien dans sa maison et qu'on n'a peut-être pas envie de changer pour revenir à Paris dans un appartement, par exemple. Et la deuxième raison qui est plus objective, c'est que la solvabilité n'est pas là. C'est-à-dire que pour vendre cette maison, bah, il faut trouver un profil.
Évidemment, un acquéreur.
Voilà, qui a un profil solvable, à qui on va octroyer un crédit. Le vendeur, en tout cas, en ce troisième trimestre 2024, il n'est pas prêt à céder sur le prix. Donc, il faut trouver non seulement quelqu'un de solvable qui va payer un prix un peu élevé et avec un taux d'intérêt qui n'est pas celui des années 2022 à 0,93%, qui est de l'ordre de 3,31% en septembre dernier. Donc, forcément, ça réduit une part de marché.
Évidemment. Pour ce qui concerne le volume des ventes, comment se porte le marché ?
Alors, il se porte pas très bien puisqu'on est sur l'ensemble de l'Île-de-France à peu près 100 000 transactions, ce qui est très faible en un an. On a 18 000 ventes en moins, c'est énorme. Le neuf, on n'en parle même pas, on parle de l'ancien. Et ce que l'on peut espérer, alors si on peut appeler ça un espoir, c'est que cette transaction qui est de plus en plus compliquée à obtenir, elle a l'air de stabiliser. C'est-à-dire que ce volume qui est en baisse, comme vous l'avez très justement dit, il a persévéré dans sa baisse, mais ça ralentit. Et peut-être qu'en 2025, on serait de l'ordre d'une baisse de volume de transactions de 2,5% pour les prix, et pour les transactions de l'ordre de moins 7%, moins 6% pour les transactions. Donc, c'est encourageant de se dire peut-être que là, ça s'arrête. Ce qui n'est pas encourageant, ce qui n'est pas très optimiste, c'est que le prix, lui, il ne baisse pas suffisamment. Voilà.
Ça ne suit pas.
Non.
Et le volume des ventes des maisons en Île-de-France, notamment sur les 12 derniers mois ?
Alors, l'Île-de-France, c'est hors Paris, évidemment. Ouais. On n'a pas suffisamment sur Paris pour vous renseigner. Mais sur le troisième trimestre, mes acolytes vous le diront mieux que moi, mais on était de l'ordre d'un volume de transactions qui s'était un peu plus ralenti que le reste des parts de marché. Et on peut escompter, en janvier 2025, encore une fois, un ralentissement de la baisse, notamment sur les maisons. Comme vous l'avez dit, là, on avoisinerait les 2%.
Et donc pour les prochains mois, finalement, et peut-être même déjà l'année prochaine, quelle projection au niveau de la baisse annuelle des prix ?
Alors, sur les volumes toujours très faibles, vous voyez, par exemple, au troisième trimestre, c'est du simple au double, en fait. On baisse deux fois plus vite en volume qu'en prix. Donc, ça veut dire que l'offre et la demande ne se rencontrent pas, très clairement. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur les prix ? Qu'ils se stabilisent encore et toujours. Et d'ailleurs, dans les variations sur trois mois, on voit même plutôt du plus.
Ouais.
Encore une fois, qui n'est pas une bonne nouvelle pour redynamiser une activité.
Et le volume des ventes en 2025 ?
Très faible. 2024, ça, c'est sûr qu'il ne sera pas bon. Il sera moins bon. Je veux pas dire pire. Il sera moins bon qu'en 2022 et qu'en 2023. Mais encore une fois, 2022 était une année record. Il y a eu un retournement de marché vraiment à la fin de l'été 2022. Donc si on veut vraiment avoir le moral dans les chaussettes, il faudrait se référer à deux ans auparavant, c'est-à-dire août 2022. Et là, on arrive sur des volumes de transactions à moins 40, moins 44%. Bon, évidemment que si on réfère à moins de 2025 à 2023, on va arriver à un ralentissement forcément de ce volume de transactions.
La dernière fois qu'on s'est vu, on avait quand même malgré tout des raisons d'être optimiste.
Oui.
On avait aussi parlé des conditions de crédit qui étaient meilleures, avec des taux d'intérêt qui avaient entamé une baisse. Est-ce que cet optimisme reste ? J'ai l'impression qu'il est mesuré.
Disons qu'on avait des signaux très positifs, ou en tout cas on y croyait,
ouais.
puisque on a entendu que les taux d'intérêt allaient baisser, qu'ils atteindraient 3% en fin d'année, on n'y est pas. On a entendu que les prix allaient baisser, que les vendeurs allaient certainement se résigner parce que ça faisait déjà 2 ans qu'ils avaient vu que les prix baissaient, qu'il fallait arrêter d'attendre encore plus pour que les prix remontent. Fatalement, on constate dans les chiffres que ça n'y est pas. On espérait aussi un message fort, alors peut-être pas économiquement, mais fiscalement, donc politiquement. On ne l'a pas, c'est même l'inverse. Sur le neuf, il n'y a aucune mesure qui puisse encourager le neuf. Sur l'ancien, même pire, on augmente les droits de mutation à titre onéreux. Donc le message, il est clair, on n'accompagne pas le marché du logement. Donc oui, on avait des raisons de croire en des signaux positifs et optimistes, sans les avoir concrétisés, hein, encore une fois, c'était des lueurs d'espoir. Au jour d'aujourd'hui, la fin d'année arrivant... Il suffit de regarder le contexte géopolitique interne d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de se mettre sur la scène internationale pour se rendre compte que quels que soient les secteurs de marché, les messages ne sont pas très bons.
Une note d'optimisme quand même pour 2025 pour terminer.
Oui, quand on a touché le fond de la piscine, on remonte à la surface. Donc, vous dire qu'il y aura un rebond, vous dire qu'il y a une reprise, évidemment que non. Je ne peux pas faire dire aux chiffres ce qui ne sont pas.
Évidemment.
On aura une année 2024 qui ne sera pas bonne, mais si on constate des ralentissements de ces baisses dans les volumes d'activité, c'est plutôt bon signe. C'est que peut-être que ça y est, le vendeur prend conscience qu'il faut mettre au bon prix, que l'acquéreur se dit je ne vais pas être aidé, donc il faut que je me débrouille autrement. Il a beaucoup épargné cet acquéreur. Ça, on a constaté un taux d'épargne
énorme,
extraordinaire. Eh bien, il avait épargné, en tout cas dans un premier temps, plutôt pour payer le fisc. Ses taxes, ses impôts, la grande crainte de la restitution de l'ISF, la grande crainte d'une retaxation IFI, l'augmentation des taxes foncières et puis ces droits de mutation à titre onéreux qui viendraient peut-être, selon les mauvaises langues, compenser la taxe d'habitation qui n'est plus. Donc, il a épargné pour ça, pour des conséquences et des considérations fiscales. Peut-être que maintenant, il va épargner pour avoir un apport supplémentaire et acheter. Et en tout cas, il faut l'espérer.
Eh bien, on l'espère tous. Merci beaucoup, Élodie Frémont, d'avoir répondu à mes questions.
Merci.
Merci également à vous de votre fidélité et à très vite sur Radio Immo.